بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Aujourd'hui, on va continuer à développer. Et là, je crois qu'on commence à arriver à la fin. On ne fait que commencer à arriver à la fin de l'introduction. Et je vous rappelle que la dernière fois, on a parlé de sunna. On avait défini sunna. Et on avait surtout défini le concept de Ahl Sunna wal Jama'a. Donc nous avions défini le concept de Ahl Sunna wal Jama'a. Et nous avons vu d'où viennent ces termes-là, qui les a employés. Donc ça vient de As-Sahaba, et les termes d'où ils viennent de le Coran et de Sunna. Et je crois que ce terme-là, c'est donc un terme qui marque l'appartenance à Sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Et je pense qu'après ça, on ne va plus mélanger. Quand on dit que quelqu'un est sunni ou pas sunni, je pense que maintenant nous savons ce que cela veut dire. Aujourd'hui, on va continuer avec ce concept, le concept de Ahl Sunna wal Jama'a, après l'avoir défini. Quand on dit Ahl Sunna wal Jama'a, ce n'est pas seulement un titre qu'on se marque comme ça sur le front. Voilà, moi je suis sunni ou de Al-Sunna ou Al-Jama'a. Et après. Donc ce concept, il a un contenu. Et c'est le contenu qui nous intéresse plus que le contenant. Bien sûr, le contenant est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent nous dire « Ouais, alors c'est quoi les musulmans? Sunna, pas sunna, etc. » Donc il faut enlever tout ça et dire « On est musulman. » Oui, on est musulman, mais on sait que être musulman, c'est aussi être dans un chemin. Et donc être musulman, c'est exactement le contenu de ce terme qui est Ahl Sunna wal Jama'a. Ce qui veut dire que Ahl Sunna wal Jama'a, c'est d'abord un certain nombre de populations sur lesquelles on va parler maintenant. Donc, ça suppose que cela nous mène à définir nos repères qui représentent Ahl Sunna wal Jama'a. Qui ? C'est très important. Mais aussi, et c'est très lié donc au premier point, qui est donc qui représente Ahl Sunna wal Jama'a, par quoi il représente Ahl Sunna wal Jama'a et comment. Donc, on va essayer aujourd'hui de parler de ces deux points-là, si on arrive à terminer et à les finir. Qui représente Ahl Sunna wal Jama'a? Alors, cette question va nous amener à parler de quelque chose qui est très très lié à ce concept, qui est le concept de salaf. Salaf salih. Car ce terme qui, dans le passé et pendant plusieurs siècles, était un terme qui contenait un concept bien précis, eh bien malheureusement, il ne l'est plus. Le mot salaf, depuis, on va dire à peu près un siècle, a été aussi, parmi ces termes et parmi ce vocabulaire qui a été vidé de son concept et qui a été remplacé par autre chose qu'on ne comprend pas trop. Le mot salaf, et je le dis tout de suite, à ne pas confondre avec le mot salafia. Ce sont deux choses qui sont très très loin l'une de l'autre. Salaf salih, c'est une chose, salafia, c'en est une autre. Ça, je le dis tout de suite. Salafi, 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 pour se faire allusion à salaf salih. Salaf salih, le mot salafa, déjà, que veut dire le mot salafa? Le mot salafa, ça veut dire précéder. C'est ça ce que veut dire le mot salafa. Ça veut dire précéder. En opposition avec le mot khalafa, qui veut dire suivre. Et de ces deux mots, nous avons, ou les anciens, ils ont pris le terme de ces, donc de là, ils ont pris le terme de as-salaf, as-salaf, as-salih. En opposition avec al-khalaf. Donc nous avons, le long des siècles, deux groupes de gens, si on peut appeler ça comme ça, al-salaf ou al-khalaf. Al-salaf, ce sont ceux qui sont passés avant, et al-khalaf, ce sont ceux qui sont venus par la suite. Voilà donc pour ce qui est du mot salaf dans la langue arabe. Les gens qui ont vécu il y a un siècle, par rapport à nous, c'est des salaf. Les gens qui viendront après nous, on les appellera al-khalaf. Ça, c'est l'utilisation dans la langue. Maintenant, le concept, comme il a été utilisé par Ulama al-Muslimin depuis les anciens temps jusqu'à nos jours, jusqu'à à peu près un siècle, النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الناس أفضل؟ النبي عليه الصلاة والسلام on lui a posé la question parmi tous les musulmans, quels sont ceux qui sont les meilleurs؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Donc le meilleur ou la meilleure génération, c'est la génération de mon siècle. Ensuite, le siècle qui vient, la génération qui vient après, ensuite la génération qui vient après. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. De ce hadith, l'Umma al-Islamiyya, à l'unanimité, ils ont utilisé le mot salaf salih pour désigner ce que le Nabi alayhi a mis en premier quand on lui a posé quelles sont les meilleures générations. Donc, salaf salih, chez tous les savants de l'islam, à l'unanimité, salaf salih, ce sont les gens qui ont vécu dans les 3 premiers siècles après Nabi alayhi salatu wasalam. Tout savant, toutes les personnes qui ont vécu dans ces 3 premiers siècles, eh bien, on les appelle As-Salaf. Hada à l'unanimité. Certains savants, ils ont dit, on va aller jusqu'à 5 siècles. Les 5 premiers siècles. Mais cette histoire des 5 premiers siècles, yani tout le monde n'est pas d'accord sur ça. Mais ce qui est objet donc de l'unanimité et du consensus, c'est que les 3 premiers siècles, on les appelle As-Salaf.
Excuse-moi, cher. Non. Juste une petite précision, c'est pas pour chipoter, mais c'est les 3 premières générations ou les 3 premiers siècles?
Siècles.
C'est pas forcément la même chose, hein. 3 premiers siècles.
Les siècles. Moi, عند les musulmans, c'est les siècles. Donc les 3 premiers siècles. Ensuite, les gens qui sont venus après, eh bien on les appelle Al-Khalaf. 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 Mais est-ce que cela veut dire, est-ce que le fait de dire qu'il y a Salaf et Al-Khalaf, est-ce qu'il y a une différence entre eux dans le chemin suivi par Al-Sunnah al-Jama'a, Al-Sunnah al-Jama'a, il restera jusqu'à la fin des temps. Bien sûr, Al-Khalaf sont sur, dans les sillons, si vous voulez, dans le chemin que Al-Salaf a tracé. Et ça c'est prouvé par Al-Qur'an et par Al-Sunnah. Quand on parle par exemple de l'aïa qu'on avait cité la dernière fois, et qui dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ce verset-là, il restera valable jusqu'à la fin des temps. Alors, la différence salaf-khalaf, c'est certes dans la qualité des personnes et dans la quantité, mais cela ne veut pas dire que les savants qui n'ont pas vécu dans les 3 premiers siècles sont à rejeter. Loin de là. Au Nabi alayhi salatu salam, il le dit très clairement dans le hadith, il dit يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ. L'udul, nous avons défini la dernière fois ce que voulait dire le mot l'udul, l'adl. L'adl, c'est les gens qui sont équitables, dignes de confiance. Ou dans ce hadith, Nabi Asusalmi parle de l'khalaf et il dit, donc, dans toute génération, il y a l'khalaf qui viendront prendre cette science qui est donc le message de Nabi alayhi salatu salam. Et ce sont les gens équitables de chaque génération qu'on appelle le khalaf, qui prendront le flambeau de la science jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. Et là, une petite parenthèse donc linguistique. Le Nabi al-Sallam, il a dit le khalafou. Et là, dans la langue arabe, on distingue très très bien entre deux choses. Le khalafou et al-khalfu. L'homme, soit vous dites al-khalafu, soit vous dites al-khalfu. Sur l'homme, vous mettez le fatha ou vous mettez le sukun. Est-ce qu'il y a une différence dans les deux termes? Dans le fond, il n'y a pas de différence. Al-khalfu ou al-khalaf, ce sont les gens qui viennent après. La subtilité, elle réside dans le fait que le mot khalafun est utilisé pour dire ceux qui viennent après, mais qui sont vertueux. Alors que khalfun, ce sont les gens qui viennent après, mais qui ont dévié. Vous lisez par exemple dans Sourate Maryam, quand il parle de l'Khalf, Washikul yqul fa khalafa min ba'dihim zid khalfun ou la khalafun ada'u s-salata wa ittaba'u ash-shahawat. Yqul fi Sourate Maryam fa khalafa min ba'dihim khalfun, mais il n'a pas dit khalafun. Khalfun, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils parlent des anciennes nations? Les anciennes nations, il dit fa khalafa min ba'dihim khalfun. Qu'est-ce que ça veut dire khalfun? Pourquoi il dit khalfun et puis après il dit pourquoi? Avant salah, ils ont négligé la prière. Ils ont négligé la prière. Wa taba'u ash-shahawat, ils ont suivi leurs passions. Donc les gens qui suivent leurs passions, qui délaissent la vertu, qui s'écartent du droit chemin, c'est aussi khalf. C'est aussi des gens qu'on peut appeler khalf, mais avec sukun. On ne dit pas le khalf, on dit le khalf. Et dans un autre verset, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُ الْكِتَابَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ. Et après eux, il y a une génération qui est venue et qui l'a appelé خَلْفٌ وَرِثُ الْكِتَابِ. Ils ont hérité du livre, وَلَكِنَّهُمْ ضَيَّعُوهُ فَخَلَفَ الْكِتَابَ. Mais ils ne l'ont pas suivi, ils l'ont délaissé. Et dans le hadith, le Nabi al-Sallam, il ne dit pas le khalf, il dit le khalafun. Il dit, il y a un ilm à min kulli khalafin, udouluhu. Il y a un founa anhu, tahrif le muharrif, il a khir le hadith. Donc, le salaf, ce n'est en fait ni plus ni moins qu'une période de l'histoire, et la différence, elle est plus historique qu'autre chose. Seulement, cette période historique, le Nabi al-Sallam, il nous dit que les gens qui vont vivre dans cette période, ils sont beaucoup plus vertueux que ceux qui viendront après. Et ça, ce n'est pas, ça ne veut pas dire que ceux qui viennent après sont donc des gens à négliger. D'ailleurs, si vous me dites, est-ce que dans les premiers siècles, il y a des gens qui avaient dévié? Bien sûr. Les premiers gens qui ont dévié, qui ont vécu avec Sahaba, ce sont d'abord, par exemple, les gens qui ont tué Sidna Uthman ibn Affan. Alors, c'est des gens qui ont complètement dévié. Mais alors, qu'en est-il pour cette période? Eh bien, cette période, c'est comme un tissu blanc, mais avec une tache noire. La tache noire, on la voit, elle est bien discernée du reste du monde. On sait de qui il s'agit, donc c'est les gens qui se sont écartés, on sait de qui il s'agit. Autant de sahaba, il y a des gens qui se sont écartés, il y a des gens qui ont dévié, certes, mais ceux qui sont dans la déviance, on les connaît, ils sont répertoriés. Mais le reste du Umma, le reste de l'Umma islamia, c'est le tissu blanc. Ils sont aussi répertoriés, ils sont connus, ils sont ils se discernent bien du reste du monde. Contrairement, par exemple, à nos jours-là, de nos jours, c'est plutôt le tissu gris avec une tache blanche. C'est pas la même chose. Et pour qu'on n'aille pas comparer les choses, c'est vrai que même dans les anciens temps, il y avait des gens qui étaient dans la déviance, des gens qui étaient dans le maasé, des gens qui étaient dans le coffre, etc., etc. Mais c'est le phénomène de masse qui compte. Quand on parle de la société, et donc, Allah Azza wa Jal, dans Sourate Al-Waqi'a, il nous dit ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْأَخِرِينَ. Donc, ثُلَّة, c'est le jama'a min nas. Donc, voilà, pour ce qui est donc de Salaf. Et ne pas confondre avec une mouvance qui a vu le jour à la fin du 19e siècle. Qui s'est voulu ce qu'elle s'est voulu, elle s'est donné ce nom de luxe salafia, c'est leur problème. Mais il faut, dans les esprits, il faut que les choses soient claires. Salafia, c'est salafia. Salaf, c'est salaf. Maintenant, pour nous, la référence, c'est salaf. On essaye de comprendre ce que veut dire le mot salaf. Ce qu'ils sont, c'est salaf. Quelles sont leurs façons de faire, leur façon de voir, quelles sont leurs, quel est le degré de vertu de ces gens-là. Une fois qu'on a su ce que c'est Salaf Saleh, ça devient pour nous une référence. Toute personne, toute mouvance qui vient, qui se déclare de Al-Sunnah al-Jama'a, qu'elle soit la bienvenue, mais nous avons les références. Ça coïncide avec les anciens, là ça ne coïncide pas avec les anciens. Si ça coïncide, ça coïncide, marhaban. Si ça ne coïncide pas, même s'ils se donnent le nom de ce qu'ils veulent, al-muhim, ce n'est pas le nom qui compte, ce n'est pas le titre qui compte, c'est la façon d'être. Voilà. Donc, je pense que cette histoire de salaf, salafi, elle est réglée. Et on revient donc à Ahl-Sunnah al-Jama'a. Donc, qui représente Ahl-Sunnah al-Jama'a? On va donc citer quelques noms ici, et puis quelques... Et après, on essaiera de voir quelle est donc la façon de faire et la façon de voir de Ahl-Sunnah al-Jama'a, bien sûr en se référant à Salaf Saleh. Quelle est la première génération de Ahl-Sunnah al-Jama'a? Il est clair que les Sahaba radiallahu ta'ala anhum sont les gens qu'il faut placer en tête. Les gens qu'il faut placer en tête, c'est les Sahaba. Après les Sahaba, il y a leurs élèves et les gens qui ont vécu avec les Sahaba. Après, c'est la génération qui vient après ces gens-là, et ainsi de suite, jusqu'à la fin des trois premiers siècles. Donc, dorénavant, quand on dit « salaf », on sait de quoi il s'agit. Quand je dis que telle personne a vécu dans l'époque de salaf, on sait que c'est quelqu'un qui est au moins né avant 400 de l'Hijra. Il a vécu entre 0, donc le temps de l'Hijra, et 400, donc la fin du 4e siècle de l'Hijra. Alors, donc, les premiers, c'est les Sahaba. Les Sahaba, déjà, entre eux, il y a parmi les Sahaba ceux qui sont plus vertueux que d'autres. Mais dans la globalité, les Sahaba, tous, sans exception, nous leur devons le plus grand respect, rien que pour le fait qu'ils ont eu la chance de voir au moins une fois dans leur vie la personne du prophète alayhi salatu wassalam. Rien que pour ça déjà, Allah Azza wa Jal, il les a placés, il les a choisis pour cette période-là, pour cette époque-là, et il les a placés au-dessus de tous. Voilà. Et les versets qui parlent des vertus de Sahaba, qui rend Sahaba des gens équitables, udoul, sans aucun problème, c'est des versets qui ne se comptent pas. Alors, entre Sahaba déjà, donc voilà, ça, tout Sahabi, le Sahabi on le définit par la personne qui était croyante, musulmane, et qui a vu le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam au moins une fois. Hakada. Ou Sahaba hadou, il y a ceux qui sont mufaddal, tafdil, yani ceux qui sont plus considérés que d'autres, bien que l'ensemble doit être considéré chez nous. Donc les meilleurs parmi les Sahaba, c'est les quatre califes. Dans cet ordre, Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, wa Ali ibn Abi Talib. C'est les meilleurs des meilleurs. Après les prophètes, ce sont ces gens-là qu'il faut placer en tête. Ensuite, les six autres pour compléter les 10. Parce que vous savez qu'il y a 10 sahaba où Nabi sallallahu alayhi wa a directement dit « Toi, tu fais partie de Ahl al-Jannah, toi, tu fais partie de Ahl al-Jannah, toi, tu fais partie de Ahl al-Jannah. » Il y a l'ashara, ce qu'on appelle l'ashara. Donc avec les quatre qui font partie de cela, il faut ajouter les 6. Sa'dun ibn Abi Waqqas, Saïd ibn Zayd, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, Uzid, شكون الاخر؟ نعم زبير بن العوام وبقى واحد نعم
شي بلال
لا نعم
عمرو عباس بن طلحة
طلحة طلحة بن الزبير طلحة جزاك الله خير هادو 10 ensuite si on agrandit le cercle après cela c'est donc tous sahaba qui ont participé à la bataille de Badr sont meilleurs que les autres. Ensuite, on agrandit un peu le cercle, c'est ça, Ahl Uhud. Ensuite, on agrandit un peu le cercle, les gens qui ont participé à Bay'at al-Ridwan, donc après, juste avant la conquête de Mecca, lorsqu'il y a eu Sulh al-Hudaybiya, et donc là, il y a eu ce qu'on appelle Bay'at al-Ridwan. Et après, tout le reste du Sahaba rentre dans cette, donc la catégorie de Sohba, à qui nous devons le plus grand respect, tous sans exception. Allez. Ensuite, vient le tour de ce qu'on appelle le Tabi'in. Tabi'in, je connais pas Tabi'in. Tabi'in, on appelle Tabi'i toute personne qui n'a pas vu le prophète alayhi salatu wasalam, même s'il a vécu au temps du prophète alayhi salatu wasalam. Il y a des gens qui ont vécu au temps du Nabi alayhi salatu wasalam et se sont convertis, mais ils n'ont jamais eu le bonheur de rencontrer le Rasoul alayhi salatu wasalam. Donc lorsqu'ils sont venus, il y a des sahaba qui se sont convertis, lorsqu'ils sont venus à Médine, c'était trop tard, ils ont trouvé le Nabi alayhi salatu wasalam déjà décédé. Hadou, on ne peut pas les appeler sahaba, bien qu'ils ont vécu au temps de Nabi alayhi salam, mais ils ont rencontré Sahaba. Toute personne qui a rencontré Sahaba, au moins un Sahabi, on l'appelle Tabi'i. On l'appelle Tabi'i. Au Tabi'i, eux aussi, il y en a ceux qui sont meilleurs que d'autres. Les meilleurs, bien sûr, ce sont ceux qui ont rencontré les 10 premiers Sahabi, dont on a parlé maintenant. L'Ashara Mubashsharina bil Jannah. Et les meilleurs des meilleurs, ce sont ceux qui ont rencontré, par exemple, les 4 califes. Ensuite, ceux qui ont rencontré les 10 ou au moins quelques-uns parmi les 10. Ainsi de suite, jusqu'à la dernière génération de Sahaba qui ont rencontré au moins un Sahabi, les Sahaba qui ont vécu très très longtemps, comme Abu Umama, comme Sidna Anas ibn Malik, ainsi de suite. Sahaba qui ont vécu très très longtemps, et donc des. Et il y a des gens qui ont rencontré au moins un sahabi. Toute personne qui a rencontré au moins un sahabi, on les appelle At-Tabi'in. Ensuite, il y a l'autre génération qui vient après. Alors parmi sahaba, donc parmi At-Tabi'in, c'est bien donc de citer quelques noms. On cite par exemple Kharijat ibn Zayd. On cite Saïd ibn al-Musayyib, Saïd ibn Jubayr, Alqama, qui est donc un disciple d'Abdullah ibn Mas'ud, l'imam ibn Shihab al-Zuhri, l'imam al-Hassan al-Basri, ou Hakada, ils sont très très nombreux. Donc juste quelques noms comme ça pour le Abid al-Salmani, qui est donc un des disciples de Sidna Ali ibn Abi Talib, ainsi de suite. Donc Hadou. Et les derniers qui ont rencontré les dernières générations de Sahaba, comme Abdurrahman ibn Hormuz, qu'on appelle ibn Zinad, que vous trouvez qui est donc un des cheikhs de l'imam Malik. L'imam Malik il raconte beaucoup de hadiths, il rapporte beaucoup de hadiths en disant An Abi Zinad, An Abi Hurayra. An Abi Zinad, An Abi Hurayra, donc il a rencontré Abu Hurayra. Naam, oui.
Parmi Tabi'in, il n'y en a pas un qui est aussi classé plus que tous les autres ? Parmi tous ? C'est du Ouz al-Qarni, il n'est pas considéré comme le meilleur parmi eux ?
Entre autres.
On ne dit pas que c'est le meilleur.
Non, il fait partie des meilleurs, mais ce n'est certainement pas le meilleur.
La qualité, quand on dit meilleur, c'est par rapport à l'enseignement qu'ils ont eu ou par rapport juste au fait qu'ils ont rencontré?
Les deux. Les deux, donc c'est les meilleurs parce qu'ils sont plus vertueux que certains. Et aussi le fait qu'ils aient rencontré Abu Bakr Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Abu Ubaida, Amr ibn al-Jarrah, le fait qu'ils aient rencontré Kibar Sahaba. C'est pour ça qu'on les appelle Kibar al-Tabi'in. Kibar al-Tabi'in. Saïd ibn Jubayr, une fois j'étais en train de discuter avec quelqu'un, et donc il a commencé à me sortir, oui, les savants ont dit, les savants ont dit, j'ai dit quel savant, il a commencé à me sortir certains noms que vous connaissez aujourd'hui. Mais je dis ce que tu dis là, il n'est pas bon, parce que Saïd ibn Jubayr a dit, oh oui, mais tu sais, Saïd ibn Jubayr, hein? C'est quoi cette salade ça? C'est quoi cette salade? Je te dis Saïd ibn Jubayr qui est l'élève de Sahaba, et toi tu me sors. C'est quoi ce mélange? C'est comme l'autre qui a dit, moi je comprends mieux que Abu Darda. Voilà. Donc là, il faut qu'on mette les pieds sur terre et qu'on sache où on navigue. Donc après ce tabi'in, on passe donc à ce qu'on appelle tabi'i tabi'in. Tabi'i tabi'in, donc tabi'i tabi'in, ce sont les gens qui ont rencontré au moins un tabi'i, quelqu'un qui a rencontré au moins un tabi'i. Et il ne faut pas croire que c'est des gens qui sont banals comme ça. Non, ce n'est pas des gens banals. Il y a dit, وَأَحَدُهُمْ مَرَا, je ne me rappelle plus du nom de, je crois, c'est une Thabit, Thabit, bon, je ne me rappelle plus le nom. Quelqu'un qui fait partie de Tabi'in, et une fois pas comme ça, il a rencontré Sidna Anas ibn Malik. Un des très 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 grands savants. Qui rencontre Sidna Anas ibn Malik quand il a vu, le plus grand bonheur et la plus grosse joie de sa vie, quand il a rencontré Sidna Anas ibn Malik. Et quand il l'a rencontré, il dit, حلف لو قالوا والله لتخرجن يدك اليد التي مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Thabit, il dit à Anas, Hlflou, tu vas nous sortir la main qui a touché la main du prophète alayhi salatu salam. Et Sayyidina Anas ibn Malik lui a donné sa main, il l'a embrassé. Hada Thabit, quand il est retourné chez lui, il a rencontré donc chez ses disciples, parce que lui-même c'était un grand savant, ses disciples et ses élèves, à leur tour, ils ont dit, Wallahi la tukhrijanna al-yada allati massat yada Rasulillah. Tu vas nous sortir la main qui a touché la main du prophète alayhi salatu wassalam. Il a sorti sa main et ils l'ont tous embrassé. Donc pour voir un peu le respect, pour voir un peu l'éducation que ces gens-là ils avaient, ce n'est pas... De la même façon, Marra, Sayyidina Anas ibn Malik, et ça vous le trouvez dans le Bukhari, Sayyidina Anas ibn Malik, qui est donc un sahabi, il a dit, moi j'ai un récipient dans lequel Nabi a bu de l'eau. Tous ceux qui étaient là, ils ont dit, tu vas nous sortir ce récipient, et ils ont insisté pour qu'il leur sorte, je ne sais pas, la carafe ou le bol, ou je ne sais pas quoi, dans lequel Nabi a bu, et ceux qui étaient là ont bu de cette eau. Rasoul Salama était mort, était décédé. Voilà. Donc, ces gens-là, c'est pas n'importe qui, c'est pas. Donc, revenons donc à Tabi'i Tabi'in. Ou Tabi'i Tabi'in, c'est cette génération qui est constituée par l'imam Abu Hanifa, Al-Nu'man ibn Thabit, ou l'imam Soufiane Thawri, ou l'imam Soufiane ibn Uyayna, ou l'imam Malik ibn Anas. والإمام الشافعي والإمام وهكذا كل هؤلاء vous en connaissez ليث بن سعد etc 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 donc هذو ce sont les gens qui représentent السلف الصالح. Aujourd'hui celui qui vient qui les prend par l'épaule comme ça, il les rejette et s'assoit à leur place pour dire moi je suis salaf, je vous laisse faire le jugement vous-même. Alors, ceux-là, ce sont eux qui ont représenté Ahl-Sunna ou Al-Jama'a. Ils l'ont représenté comment? Bon, avant de répondre à cette question-là, il faut savoir aussi que ça, c'est la communauté des grands savants. Mais les autres personnes, eux aussi, font partie de salaf salih s'ils sont restés vertueux. Eux aussi, ils font partie de Al-Sunna wal-Jama'a. Eux aussi, ils représentent Al-Sunna wal-Jama'a. Mais quand on parle de référence de science, il est clair que ce sont ces gros calibres, ces grosses têtes, hein, qu'on doit citer comme étant les références dans les sciences. Donc, Al-Sunna wal-Jama'a, si on essaye de voir dans différentes disciplines qui sont les grands hommes dans chaque discipline, eh bien, vous ne trouvez guère que des gens qui font partie de Al-Sunna wal-Jama'a. Et je crois que là, dans le livre de Usul Tawhid de l'imam Abu al-Mansour Abd al-Qahir al-Tamimi al-Baghdadi, Tamimi al-Baghdadi, il est mort en 429. Ça veut dire que lui aussi, il est né et il a vécu et il a donc pris la science dans les 3 premiers siècles. Là, il met dans son livre, il termine son livre avec un très très beau passage. Et qui dit donc, qui représente Al-Sunna wal-Jama'a dans chaque discipline. Si vous allez prendre par exemple l'Aqida, quels sont les grands noms qui représentent Al-Sunna wal-Jama'a? Si vous prenez Al-Fiqh, quels sont les grands noms qui représentent Al-Sunna wal-Jama'a? Et d'ailleurs, ces sciences même, elles ne sont représentées que par Al-Sunna wal-Jama'a. Si vous prenez par exemple le Coran. Le Coran qui a été transmis. Quels sont les noms, les grands noms qui ont marqué leur nom, qui se sont donc qui ont marqué l'histoire, si vous voulez, quand on parle de le Coran. Tout le monde sait qu'on parle par exemple de l'imam Asim ou l'imam Nafi. Ce sont donc les maîtres de Warsh et de Qalun. Asim, c'est le maître de Hafs. Had, c'est qui? Dans toutes les variantes de lecture du Coran, ceux qui représentent le Coran, ceux dont le nom s'est collé au Coran, ce sont tous des grands imams, de grands oudoul, et qui font partie de Al-Sunna wal-Jama'a. L'imam Nafi' min Al-Sunna wal-Jama'a, et il a vécu dans les 3 premiers siècles. Et l'imam Nafi'ada, s'il n'a que comme vertu que le fait que l'un de ses élèves, de ses disciples, c'est l'imam Malik, ça lui aurait suffi. Al-imam Asim, min Ahl-Sunna wal-Jama'a. Al-imam Ibn Kathir al-Makki, Abdullah Ibn Kathir al-Makki, min Ahl-Sunna wal-Jama'a. الإمام أبو عامر الدمشقي من أهل السنة والجماعة. الإمام أبو عمرو البصري من أهل السنة والجماعة. الإمام علي الكسائي من أهل السنة والجماعة. الإمام حمزة بن حبيب الزيات من أهل السنة والجماعة. الإمام خلف من أهل السنة والجماعة. الإمام اليزيد بن القعقاع من أهل السنة والجماعة. Hadou, ce sont les personnes dont le Coran, dans les lectures du Coran, ont pris leur nom. On dit Qira'at Hamza, Qira'at Nafi'a, Qira'at. Donc, le Coran, il a été porté par Al-Sunna wal-Jama'a, en commençant par Sidna Abu Bakr Siddiq, parce que c'est lui qui a regroupé le Coran, en passant par Sidna Othman ibn Affan. Sidna Othman ibn Affan, c'est lui qui a rédigé les masahif qu'on appelle Mus'haf al-Imam. Et après tout ce qui ne rentre pas dans le masahif écrit par Sidna Othman ibn Affan, bien sûr, c'est pas lui qui a rédigé, mais la commission qui l'a désigné, donc a été éliminée. Et donc le Mus'haf que nous lisons aujourd'hui, le Mus'haf que nous avons entre les mains, il a été écrit, porté, transcrit, transporté ou la transférer, etc., tout ce que vous voulez, par Al-Sunna ou Al-Jama'a. On passe, par exemple, à toutes les sciences et les disciplines de l'oura, l'oura l'arabia. L'oura l'arabia, qui est-ce qui a commencé pour la première fois à émettre les toutes premières règles? Déjà, parmi les Sahaba, il y a Sidna Ali qui a commencé. On dit, on rapporte que Sidna Ali a commencé le premier à mettre en place la règle de Kana wa Akhawatuha, la fameuse règle de Kana wa Akhawatuha, l'équivalent en français des verbes d'état. Kana wa Akhawatuha, donc, et il a dit à un de ses disciples, qui est l'imam Abu al-Aswad al-Du'ali, il lui dit, voilà ce que j'ai fait. Fais comme moi, donc suis ce chemin et continue ces règles-là. Et il lui a dit ça en arabe, il lui a dit Unhu Nahwi. Unhu Nahwi. Unhu Naha Yenhu. En arabe, le mot Naha, il a plusieurs sens. Mais entre autres, ça veut dire suis ce chemin, suis-moi dans ce que j'ai fait. Et de là, le mot Nahu découle. Donc Abu al-Aswad al-Du'ali, min Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, الإمام سيبويه من أهل السنة والجماعة، الخليل بن أحمد الفرايدي من أهل السنة والجماعة، et j'en passe. Donc tous les gens, علي الكسائي، الكسائي donc il a deux fois imam, imam dans le Coran et imam dans la langue arabe. الإمام الكسائي، il est de أهل السنة والجماعة. الإمام أبو عمرو البصري، aussi dans la langue arabe, aussi bien que la langue arabe que le Coran aussi. Il fait partie de Ahl Sunnah wal Jama'a et ainsi de suite. Donc ceux qui ont posé les règles, ceux qui ont travaillé sur ces règles-là, ce sont Ahl Sunnah wal Jama'a. Si vous passez à Al-Fiqh, Al-Fiqh, il a commencé comment? Bien sûr, il a commencé avec le Nabi alayhi salatu wasalam. Mais Al-Fiqh, après Nabi alayhi salatu wasalam, Sahaba, ils se sont trouvés devant des problèmes nouveaux qui se sont posés dans la société et ces problèmes ont été résolus. Comment? Ça, on en parlera plus tard. Mais pour l'instant, on parle de qui? On ne parle pas de comment. Qui? Sahaba. Les Sahaba, il y avait un très 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 grand nombre de Sahaba qui sont restés après le Nabi. Mais parmi eux, ceux qui étaient des savants, tout le monde n'était pas savant au même niveau. Ceux qui étaient de grands savants, il y avait à peu près une centaine. Sur 100 000, ou je sais plus combien, sous 100 000 ou sous 20 000, il y avait une centaine. Ceux qui étaient dans un très très haut niveau de science, qui émettaient le fatwa, qui se permet de dire, moi j'ai un hadith, et donc de le hadith j'extrais des lois, autant de sahaba, ce luxe n'était pas prétendu par tout le monde. Autant de sahaba, c'est sahaba, vous savez ce que c'est? Ils étaient à peu près une trentaine, ce qu'on appelle le mufti. Parmi les sahaba, il y avait combien de mufti? Il y avait une trentaine. Aujourd'hui, tout le monde est mufti. Il y a 1 milliard de muftis sur Terre. Parmi les sahaba, 30. Et parmi ces 30, il y a des sahabis qui ont qui sont connus pour avoir parlé et émis des avis sur tous les problèmes de fiqh. Différence entre quelqu'un qui est faqih, mais qui n'enseigne pas. Donc il ne va pas parler, il va pas faire des cours sur le fiqh. Comme Abu Bakr Siddiq, ou Omar ibn al-Khattab, c'était de très grands faqih. Mais lui, il était occupé à faire de la politique et à gérer le khilafa, etc. Donc, il faisait le fatwa quand il se trouvait en face d'un problème. Mais ceux qui se sont donnés à l'enseignement et qui ont pratiquement touché à toute la panoplie, si vous voulez, tous les volets de le fiqh, ils sont au nombre de quatre. C'est tout. Alors, ces quatre, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Zayd ibn Thabit, et Ali ibn Abi Talib. Et on peut ajouter aussi avec eux, Sayyidina Abdullah ibn Omar. Alors, Hadou, c'était des grands muftis. Non?
Je peux
قلنا عبد الله بن مسعود. Il était où, Abdullah ibn Mas'ud? Il vivait où? Le Koufa. Ali ibn Abi Talib. Abdullah ibn Abbas. Qui vivait où? Mekka. Et Zayd ibn Thabit. Qui vivait à Médine. Et Abdullah ibn Omar, on peut ajouter aussi Abdullah ibn Omar. Qui lui aussi vivait à Médine. Hadoula, la particularité, c'est que c'était des savants, mais ils ont eu l'occasion de toucher à tous les points, et à tous les volets de l'fiqh. L'imam Abu al-Mansour al-Baghdadi, il dit dans son livre, celui-là, que lorsque ces quatre sont d'accord sur un point, c'est très 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 rare où les savants divergent sur ce point-là. Lorsqu'ils se mettent d'accord sur un point, ça veut dire que pratiquement, à coup sûr, l'Ummah al-Islamiyya mujmi'a ala mattafaqa alayhi hadul arba'a. Lorsque ces quatre sont d'accord sur un point, on trouve toute l'Ummah rangée derrière eux. C'est rare, très très rare où on trouve le contraire. Lorsque eux, ils divergent sur un point, c'est rare, sur un point, c'est rare où on trouve, où l'Umma ne diverge pas sur ce point-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il dit, entre autres, que lorsque Zayd ibn Thabit émet une fatwa et qu'il n'est pas d'accord avec les autres sahabis qu'on a cités, en général, et automatiquement, vous trouvez l'imam Malik derrière lui. Si Zayd ibn Thabit, ou en général aussi Abdullah ibn Omar, et aussi Omar ibn Khattab, bon, ils sont plusieurs, mais surtout Zayd ibn Thabit, qui était donc, qui s'est donné à la science et à l'enseignement, lorsqu'il dit quelque chose, c'est très, très rare, extrêmement rare, où vous trouvez l'imam Malik diverger avec lui. Lorsque l'imam Malik et Shafi'i aussi d'ailleurs. Lorsque c'était Abdullah ibn Mas'ud qui émet un avis qui est contraire aux autres, vous trouvez derrière lui ses disciples Al-Qama, Al-Sha'bi ou Abu Hanifa. Voilà, cadre. Donc la première génération de Fuqaha, Al-Sunna wal-Jama'a, c'est cette centaine de Sahabi. Et dans la centaine, ceux qui émettaient le fatwa, c'est cette trentaine. Et dans cette trentaine, il y a ces quatre qui ont eu plus de temps à consacrer à l'enseignement et à... Après, c'est la génération, là c'est le rôle de le tour de Tabi'in. Alors, Tabi'in, là aussi, donc, chaque sahabi a laissé derrière lui tout un monde de disciples qui sont arrivés de très 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 haut niveau de science et qui étaient porteurs de la science de ces sahabis qui les ont formés. Donc, à Médine, vous allez trouver ce qu'on appelle les fameux Fuqaha al-Sab'a. Fuqaha al-Sab'a, ce sont sept grands savants de Médine qui sont tous des tabi'i. Donc parmi eux, vous trouvez donc Saïd ibn al-Musayyib, vous trouvez Urwa ibn Zubayr, vous trouvez Kharija ibn Zayd, Zayd ibn Thabit, son fils, il était aussi grand savant comme lui, et ainsi de suite. C'était au nombre de sept. Et d'ailleurs, l'imam Malik, il disait que lorsque ces sept sont d'accord, l'imam Malik, il comptait l'avis sur lequel ces sept sont d'accord comme étant ijma' al-umma. Quand ces sept sont d'accord, c'est ijma'. Voilà. Donc, cette science a été transmise, et après tabi'in, Ils sont très nombreux. Il y a le Hassan al-Basri, par exemple. Il y a le Fudayl ibn Iyad. Il y a Saïd ibn Jubayr. Il y a Al-Qama. Ils sont très très nombreux. Ata ibn Abi Rabah, donc l'élève direct de l'imam de Sidi Abdullah ibn Abbas, etc. Donc ils sont très 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 nombreux. Donc chaque sahabi a laissé derrière lui un grand monde de grands, 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 grands savants qui sont capables d'émettre Al-Fatwa. Après cette génération, le flambeau a été remis entre les mains de gens qui ont marqué l'histoire par leur science et par leur fiqh pendant plusieurs siècles jusqu'au fameux 19e siècle. Tous les musulmans étaient rangés derrière ces quatre, donc qui ont pris le flambeau après Tabi'in et qui sont ce qu'on appelle le fuqaha. Alors, vous trouvez par exemple la génération d'Imam Malik, Abu Hanifa, Al-Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, Soufiane Thawri, Soufiane ibn Uyayna, Layth ibn Sa'd, wa ils sont aussi très très nombreux, mais à chaque fois, ces gens, les gens qui dépassent le temps, là, qui dépassent les gens qui sont au même niveau, il y a toujours des gens qui dépassent, qui sont encore meilleurs que les meilleurs. Et donc, ceux que j'ai cités là, ce sont eux qui ont pris le flambeau de la science. Et cette science-là, ils n'ont pas sorti ça de leur poche. C'est une science qu'ils ont héritée de leurs maîtres, qui sont tabi'in, qui eux-mêmes ont hérité cette science de leurs maîtres, qui sont sahaba. Allah Azza wa Jal a voulu que toutes les écoles de ces gens-là, elles s'estompent avec le temps, parce que les gens n'ont pas travaillé ces écoles-là, et seules les quatre écoles sont restées, se sont propagées le long de l'histoire, mais ces écoles-là, je pense que maintenant vous savez d'où elles viennent. Madhhab al-Imam Malik, Ibn Anas, Madhhab al-Imam Abi Hanifa, مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل. Je pense que maintenant vous savez d'où viennent ces écoles. Ces écoles-là ne viennent pas comme on nous dit aujourd'hui. Ce n'est pas des gens qui étaient comme ça appuyés contre le mur et ils émettaient des fatwas comme ça à tort et à travers en long et en large. Celui qui dit ça, il va les rencontrer Yom al-Qiyamah et il aura des comptes à rendre. Yani celui qui se fout de l'imam Abu Hanifa viendra le jour où il le rencontrera Yom al-Qiyamah. Celui qui dit que Abu Hanifa ou le Shafi'i n'a pas de dalil, ça veut dire que Abu Hanifa il a dit de sa tête. Ça veut dire que Abu Hanifa il a menti. Ça veut dire que le Shafi'i disait n'importe quoi. Hado, Yom al-Qiyamah, ils rencontreront Shafi'i, ils rencontreront Abu Hanifa et ils auront des comptes à rendre. Pardon. Alors. Vous allez me dire, le fiqh, il a évolué. Donc, ce que disait Sahaba, il a évolué. Donc, les problèmes qui existaient au temps de Shafi'i ou là, au temps de l'imam Malik n'existaient pas au temps de Sahaba. Donc, eux, ils ont rajouté. Bien sûr qu'ils ont rajouté, et leurs élèves ont rajouté, et les élèves des élèves ont rajouté. Mais, ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'il faut qu'il soit clair dans les esprits, c'est que Sahaba, ils n'ont pas seulement laissé des fatwas, faire ceci ou ne pas faire cela. Ils ont laissé aussi, et c'est là le fort de Ahl-Sunnah ou Jama'a, une façon de raisonner, une façon de construire les idées, une façon de construire le fatwa. Et c'est ça le point qu'on va essayer d'attaquer prochainement. Comment, le comment, le fameux comment, on y reviendra. Pour l'instant, je rappelle qu'on est en train de dire, de parler du qui. Voilà. Donc voilà pour les trois siècles, voilà pour l'Aïmma, voilà pour ceux qui représentent Al-Sunna al-Jama'a, voilà pour ceux qui peuvent et qui ont été connus et reconnus, je répète toujours ça, comme étant les piliers de Al-Sunna al-Jama'a, les représentants de Al-Sunna al-Jama'a, alors que on sache maintenant qui est quoi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Non. Donc, je suis mal. Ah, je suis mal. شغل
شيخ في العقيدة يعني زي باسيتي لي
صافي بشويه بشويه ماشي فوالا دونك دون توت لي ديسيبلين les grands, les références qui ont été reconnues pendant plusieurs siècles et par des millions et des millions de grands savants, ils sont là, on les connaît. Donc on a parlé de la langue arabe, on a parlé du Coran, le hadith. Le hadith aussi, c'est une discipline qui est immense et qui est représentée par des gens. Qui est-ce qui a soutenu, qui est-ce qui a porté cette discipline? Déjà au temps de Sahaba, ça, je pense qu'il y a pas, on n'a pas besoin de parler donc de Sahaba ou ilm al-hadith. Mais après eux, nous avons parlé des fuqaha al-sab'a. Les fuqaha al-sab'a qui étaient des grands imams dans le fiqh, ce sont eux-mêmes les grands imams dans le hadith. D'accord? Et donc, pratiquement tous ceux qui étaient des grands imams dans le hadith, dans le fiqh, étaient aussi des grands imams dans le hadith. Mais toujours le même problème, il y a des gens qui ont atteint un top niveau, comme l'imam Zuhri, comme l'imam Malik, comme l'imam Soufiane ibn Uyayna, comme l'imam Wahakada, l'imam Ahmed ibn Hanbal, et ainsi de suite, donc génération après génération, comme Ali ibn al-Madini, comme l'imam Abdurrahman ibn Mahdi, comme Abdullah ibn al-Mubarak, comme un grand monde, beaucoup, beaucoup de gens comme ça, qu'on peut citer, donc la liste est très très longue, et jusqu'à la génération de l'imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, ou l'imam Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Nisaburi, ou l'imam al-Nasai, ou hakada. Donc les noms, je pense que vous connaissez les grands de hadith, ceux qui ont été, et ils sont tous de Al-Sunna ou Al-Jama'a, ils sont tous des références de Al-Sunna ou Al-Jama'a. Donc c'est des choses à bien se mettre en tête. Est-ce qu'il y a des questions sur ça ou peut-être que des choses ont été oubliées?
Simplement avant que tu parlais de l'imam Nafi, quand on dit que c'est la franchise de Sayyidina Abdullah ibn Omar, ça veut dire qu'à la base c'était un esclave. L'imam Nafi
d'Allah, oui.
Au début c'était un esclave.
Ah. Oui, mais seulement à l'époque, un esclave c'était. Bon, mais après il n'est plus resté esclave, c'est clair.
Ouais, mais à la base on était. Et juste histoire que tu as raconté avec Sayyidina Anas ibn Malik. Celui qui l'a embrassé la main, c'était
Tabi'in ou Tabi'i? Tabi'i. Non, s'il a vu Anas ibn Malik, il ne peut être que Tabi'i. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions?
Cheikh nous a donné les noms des comités de fiqh, du Coran, mais pas de l'Aqida.
L'Aqida. Je vois que vous êtes pressés. Alors, l'aqida, j'ai laissé en dernier parce que ça demande un peu plus de temps et un peu plus de concentration parce que sinon, j'ai pas envie de dire les choses à moitié et surtout, j'ai pas envie d'être compris à moitié. Alors, pour ce qui est de l'aqida, l'aqida, il y a deux choses dans l'aqida. Il y a l'aqida proprement dite, et l'aqida, ce sont les fondements de la foi. Al-imanu billahi wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi ila akhirih. Wal-qadari, khayrihi wa sharrihi. Hada, c'est des choses que le Coran a. On a parlé, il les a définis, voilà ce à quoi il faut croire, voilà ce à quoi il faut croire, et c'est ça l'aqida. Il n'y a pas besoin de philosophie ni de quoi que ce soit, tu prends ça comme ça, et puis l'imam, l'imam, l'akhir, l'azawajal, il dit, يكون الحساب دونك نو سيرون جوجي يوم القيامة. Mais il y a un autre volet dans l'aqida, et ça on le trouve dans le Coran, on le trouve dans le Sunna, on le trouve par après. Lorsque les gens croient facilement à l'aqida, ils croient tranquillement et facilement, le problème ne se pose pas. Mais le problème c'est qu'il y a des gens, déjà au temps de Nabi alayhi salam, Quraysh, et après, il y a les Nasara, il y a Yahoud, il y a le Majus, il y a je ne sais pas quoi, les philosophes, etc., qui refusent de croire à l'aqida. Alors à cela, déjà dans le Coran, on trouve un phénomène dans le Coran, c'est que des fois, il parle de l'aqida d'une façon très simple, mais des fois, il parle de l'aqida en argumentant, en donnant des arguments sur la véracité de l'aqida. Donc, ce qui suppose que des fois, avec certains gens, l'aqida, elle mérite ou elle demande une confrontation et un dialogue avec des preuves. Tu donnes tes preuves, je donne mes preuves, et etc. Hada, c'est un deuxième volet de l'aqida. D'ailleurs, par la suite, il a pris le nom de ilm al-kalam. Ilm al-kalam, c'est quoi ilm al-kalam? C'est le fait d'avoir des outils. Avec ces outils, où on peut défendre l'aqida, on peut montrer la véracité de l'aqida, alors que l'aqida, elle est ce qu'elle est. Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il existe, il existe. Mais celui qui commence à philosopher, il nous dit, moi, il n'existe pas. Y a-t-il des moyens, mis à part le Coran et le Sunna, puisqu'il n'accepte pas le Coran ou le Sunna, de mettre sur table des preuves qu'il existe? Bien sûr que oui. Ces preuves, cet arsenal de raisonnement qu'on peut apporter, hala, ça s'appelle ilm. Al-kalam. Donc lorsqu'on parle de l'aqida, des fois on parle de l'aqida toute simple, mais des fois on parle de ilm al-aqida, qui est aussi ilm al-kalam, qui est aussi la façon d'argumenter, la façon de poser des preuves, etc. etc. Et ça, c'est devenu par la suite une science à part entière. Et là, on revient à la question, qui représente al-sunna ou al-jama'a dans l'aqida? Bon, là, je crois que le mieux, c'est de lire tout de suite ce qu'il nous raconte. Il dit l'imam Abu al-Mansour al-Baghdadi, il dit que le premier parmi les mutakallimi, quand il dit les mutakallimi, c'est donc ulama al-aqida, عند أهل السنة والجماعة, le premier, c'était Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Quand il a vu qu'il y avait des gens qui déviaient dans son temps, donc il a commencé à prendre la défense de l'aqida. Et donc, le premier qui a commencé à dialoguer, à confronter le Khawarij, par exemple, fi masail